Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Dans les mensonges ou les arnaques, plus c'est gros, plus ça passe, a-t-on coutume de dire, et ce n'est pas faux. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, en mode été. On va vous raconter l'histoire d'un escroc légendaire, un personnage qui fait partie d'une série que vous pouvez retrouver dans les Échos, en infographie. L'histoire n'a pas retenu son nom, mais dans le genre, Victor Loustich, il a fait fort, très fort. Ce qu'il a fait, il a simplement vendu un objet, qui n'était pas à lui, bien sûr, nous parlons d'escrocs, là. Mais surtout, surtout, quel objet et quelle drôle d'idée.
Alors, Victor Loustich, c'est un drôle de type tout à fait, qui a réussi à vendre une drôle de chose, une chose qu'on connaît tous très bien, c'est... la Tour Eiffel.
Jules Grandin est le chef du service infographie des Échos.
Et il se trouve que, normalement, la Tour Eiffel, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre. Surtout quand on s'appelle Victor Loustich et qu'on n'a rien à voir de près ou de loin avec cette tour. La Tour Eiffel, c'est un bien non fongible. Ça veut dire que c'est un bien qu'on ne peut pas répéter et fabriquer en série et revendre. Et ce type de bien, normalement, pour les vendre, il faut y être habilité. C'est un petit peu comme une œuvre d'art. N'importe qui peut pas arriver et vendre une œuvre d'art. La Tour Eiffel, c'est pareil. La petite version porte-clés de la Tour Eiffel, c'est pas un bien non fongible. Ça, on peut en vendre autant qu'on veut parce qu'on peut en refabriquer plein. La Tour Eiffel, on peut pas la refabriquer. Donc, par essence, normalement, on ne peut pas la vendre.
Joli coup pour un parfait inconnu de l'histoire, mais qui est Victor Loustich ? Un mythomane, un voyou ? Et quel est le parcours qui l'a mené jusqu'à la Tour Eiffel ?
Victor Loustich, c'est pas du tout un voyou. C'est plutôt un fils de bonne famille qui naît à la fin du 19e en Autriche-Hongrie. Du coup, il est dans une famille relativement aisée et à la base, pas grand-chose le prédestine à devenir un arnaqueur international, à part sa propre ambition. Il va s'y atteler relativement tôt dans sa vie, disons dans les 20 premières années de sa vie. Alors, on ne connaît pas très bien son enfance, bien sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'il arnaque beaucoup de gens aux cartes. Il est très doué aux cartes dans sa ville natale, en Autriche-Hongrie, jusqu'à ce qu'il ait à peu près 20 ans, date à laquelle il est condamné à de la prison pour une durée indéterminée. Et ensuite, il fait le choix de quitter l'Autriche-Hongrie. C'est la République tchèque actuelle. C'est quelqu'un qui est très au fait des bonnes manières et de l'étiquette et de comment on se comporte en bonne société. Donc ensuite, dans sa carrière d'escroc, ça va être une carrière d'escroc essentiellement dédiée à arnaquer la bonne société et les personnes aisées avec lesquelles il est très à l'aise, en fait. Donc, ce que va faire Victor Loustich dans un premier temps, c'est se spécialiser dans des arnaques transatlantiques. Donc, ça, je ne sais pas si c'est le seul à faire ça, mais en tout cas, c'est le seul à ma connaissance. C'est-à-dire qu'il passe sa vie, environ 4 ans, sur des paquebots transatlantiques et il passe beaucoup de temps dans les salles de jeu de ces paquebots, puisque ça prend quand même quelques temps de traverser. C'est uniquement de la bonne société fortunée et, en gros, il arnaque et il plume aux cartes durant les allées puis les retours, un petit peu tous les passagers. Donc, il va faire ça pendant plusieurs années, il a son petit business, ça fonctionne très bien, mais arrive la Première Guerre mondiale. Du coup, interruption des traversées transatlantiques en paquebot, et du coup, il va falloir qu'il trouve quelque chose d'autre.
Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement, sa place dans le monde.
Le symbole de Paris est l'image de carte postale de la France. Non mais comment quelqu'un a-t-il pu le croire une seconde ?
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est totalement crédible à l'époque de vendre la Tour Eiffel. En tout cas, pour nous, en 2021, c'est pas du tout crédible. On comprend très bien que ça ne l'est pas. En revanche, Victor Loustich, lui, c'est en 1925 qu'il vend la Tour Eiffel. À l'époque, la Tour Eiffel, c'est relativement jeune. La Tour Eiffel, son ouverture, c'est 1889. C'est pour l'exposition universelle. Donc, c'est relativement jeune comme monument. Deuxièmement, c'est censé être éphémère. On a construit la Tour Eiffel pour faire un petit peu montre du savoir-faire français, mais pour l'exposition universelle. Mais l'idée, c'était de la démonter après, comme d'ailleurs quasiment tout ce qui est créé à l'occasion des expositions universelles. Donc, ça rajoute à la crédibilité. Et enfin, un troisième argument, c'est qu'on est dans les années 20. Du coup, on sort de la Première Guerre mondiale, durant laquelle le cours du fer a explosé. En 1912, c'était à 22 francs le kilo, et en 1920, c'est à 100 francs le kilo. Donc, vous avez multiplié par 4. En fait, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec cette tour Eiffel qui est d'ailleurs à ce moment-là très peu entretenue, puisque, encore une fois, on sort de 4 ans de Première Guerre mondiale durant laquelle on avait autre chose à faire que d'aller repeindre la tour Eiffel. Donc en fait, elle est en très mauvais état. Plus, à l'époque, elle a un petit peu un côté tour Montparnasse. Si vous voulez. Les Parisiens, ils sont pas spécialement amoureux de la tour Eiffel. Ils trouvent pas du tout que c'est le symbole de leur ville. Ils trouvent que c'est un truc super moderne qu'on a construit comme ça et qui ne fait pas vraiment sens. Pour toutes ces raisons, au final, c'est très crédible.
Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qu'il va falloir démonter juste après.
Vous avez réponse à tout.
La vie m'a appris à me méfier des surprises.
Oui, finalement, la Tour Eiffel, c'est un peu un jeu de mécano géant, non ?
C'est ça qui est intéressant, c'est que la Tour Eiffel, c'est environ 18 000 pièces différentes qu'on a assemblées. Tout est prémonté avant d'être envoyé par voie fluviale au Champ de Mars, où là, il ne reste plus qu'à serrer les boulons. C'est vraiment un travail qui peut être fait assez rapidement, et c'est pour ça que la tour se monte en 2 ans et 2 mois. Donc, on a coutume de dire que la tour Eiffel, elle fait 7000 tonnes. Pour être précis, elle fait plutôt 7360 tonnes, dont 6300 de fer. Parce que le reste, c'est des rivets. Il y a énormément, énormément de rivets. C'est pour ça qu'on parlait de mécano. En fait, c'est exactement la même logique. Ce sont que des pièces de métal rivées les unes aux autres. Et du coup, à l'époque, en 1925, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement alléchant pour tout un tas de personnes. Parce que ça fait quand même beaucoup de matières premières à dispo.
Qui va être la victime de Victor Lustige ? Qui va mordre à l'hameçon ?
Elle porte un nom parfait puisque c'est un ferrailleur qui s'appelle André Poisson.
Et comment s'y prend-il ?
Ça va lui prendre uniquement 10 jours. Il faut dire qu'à cette époque, il est totalement rompu à faire des arnaques. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il fait ça. Et puis, il faut dire aussi qu'il a ce côté bonne société, bonne manière, qui fait qu'il va être très à l'aise dans tout le côté un petit peu ministériel de son arnaque. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer dans un palace parisien. Il va s'installer au Crillon, où, à partir de là, il va se endosser le rôle d'un officiel de l'État, une sorte de ministre, envoyé par le président pour gérer la vente de la Tour Eiffel. Ce qu'il fait, c'est qu'il se fait simplement du papier en tête de la République française et il écrit une lettre aux 5 plus grands ferrailleurs de la région qu'il a trouvé dans le Botin, assez solennel, en les invitant à un dîner au Crillon pour leur parler d'un projet extrêmement important. Donc les 5 viennent, ils font un dîner au Crillon durant lequel Lustige, c'est là qu'il est le plus fort en fait. C'est sur l'entourloupe, c'est sur juste parler aux gens et leur vendre du rêve et leur expliquer. Donc je pense qu'il a aucun mal à les convaincre du fait que ça va se faire, mais quand même, il sait comment escroquer les gens, il sait qu'il faut les rassurer, donc il va les emmener carrément à la Tour Eiffel, à l'issue du dîner. Il va faire visiter la Tour Eiffel. Il se fait ouvrir la Tour Eiffel par une entrée dérobée, mais sur présentation d'une carte qu'il a falsifiée lui-même et qu'il a créée probablement la veille. Donc, il parvient à leur faire visiter la Tour Eiffel. Il monte au premier étage, il regarde. Donc, ça les impressionne tous pas mal, on imagine. Et puis ensuite, tout le monde rentre au Crillon où là, il leur laisse un délai assez court de quelques jours pour faire leur offre. À partir de là, il attend. En vrai, depuis le début, lui, il sait lequel des 5 il a l'intention de ferrer. C'est totalement André Poisson. Les autres sont presque des leurs. Sa cible à lui, c'est plus André Poisson. Et il se trompe pas puisque c'est André Poisson qui va faire une offre au bout de quelques jours.
Il a fait une enquête de personnalité alors ?
Il a fait un petit peu une enquête de personnalité puisque en fait, les 4 autres ferrailleurs, c'était des ferrailleurs installés qui n'avaient pas vraiment de problème de réputation, on va dire. André Poisson, il est un petit peu nouveau, il vient d'arriver. Et du coup, il faut un petit peu qu'il justifie sa place. Il est un peu à la recherche de son gros coup qui va justifier son rôle de chef d'entreprise. Donc ça, Lustige que c'est. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en ligne de mire. Et ça fonctionne d'ailleurs très bien.
Ça fonctionne très bien, mais c'est-à-dire, c'est allé jusqu'où ?
Alors, c'est allé tout simplement jusqu'à la vente de la Tour Eiffel. Donc comment ça se passe à partir de là ? Lustige rentre au Crillon, il attend tout simplement une offre en bonne et due forme de la part de André Poisson. L'offre arrive et Lustige reprend contact avec André Poisson, il invite au Crillon pour venir finaliser tout ça. Et quand Poisson arrive, il est plus vraiment sûr de lui, dit qu'il en a parlé avec sa femme, qu'il l'a un petit peu mis en garde en lui disant que c'était étrange. Et là, Lustige a un peu le coup de génie d'escroc encore une nouvelle fois. Et pour ajouter au crédit de sa demande, il demande à Poisson un pot de vin, chose qui se pratique pas mal à l'époque dans les milieux ministériels. Et Lustige se dit que ça va probablement achever de convaincre Poisson. Si c'était un escroc, il demanderait jamais un pot de vin. Donc, il lui demande un pot de vin assez considérable, je pense, qu'il obtient. Et ça achève un petit peu de convaincre André Poisson qui va, 2 jours plus tard, lui fournir la somme. Et à partir de là, 10 minutes plus tard, probablement, Lustich est dehors dans la rue et direction l'Autriche-Hongrie avec dans la poche pas mal d'argent, mais on ne sait pas combien.
Voleur, au voleur, assassin, au meurtrier, justice, justicielle, je suis perdu.
Jules, on ne sait vraiment pas combien Victor Lustich est parvenu à voler à ce monsieur Poisson. Et pourquoi?
On ne sait pas avec combien Lustich disparaît. On ne sait tout simplement pas pour combien il a vendu la Tour Eiffel. Est-ce que d'ailleurs il a pu avoir la somme générale de la Tour Eiffel ou est-ce qu'il a pu avoir qu'une avance qui lui a paru assez considérable pour partir? Tout ça, on ne le sait pas. Et pourquoi on ne le sait pas? C'est parce que une fois que la Tour Eiffel est vendue et que Lustich disparaît, que fait André Poisson? Il se rend à la Tour Eiffel pour prendre possession de son nouveau bien. Et au bout d'une dizaine de minutes, les employés lui font comprendre qu'il a été victime d'une arnaque. Et à partir de là, il est confit de honte, en fait, le pauvre André Poisson, et il ne porte pas plainte. Et en fait, il n'en parle pas.
À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et Lustich, il est où pendant ce temps-là?
Lustich, lui, il s'est réfugié à Vienne, persuadé qu'au bout de 2 jours, il allait faire la une des journaux, le coup du siècle, quelqu'un a vendu la Tour Eiffel. Et en fait, rien du tout. Comme la nouvelle sort pas, au bout d'un mois, parce que relativement court quand même, il se dit tout simplement qu'il va revendre la Tour Eiffel. Et il retourne à Paris et il recommence la même chose. Simplement, là, il tombe sur quelqu'un d'un tout petit peu plus coriace qui flaire l'arnaque et qui prévient la police. Et du coup, Lustich doit s'enfuir vers les États-Unis.
Et là, il met fin à sa carrière d'arnaqueur. Il se range des voitures, comme on dit, ou bien pas?
Il arrive d'abord en Floride, où principalement, il va faire une activité de faux-monnayeur, ensuite, aux États-Unis, jusqu'à la fin de sa carrière d'escroc et de sa vie, hein, qui coïncide, c'est le même jour. Donc, il va faire pas mal de fausses monnaies en Floride. C'est dans les années 20-30, donc il n'y a pas Internet. Il y a un peu de téléphone, mais beaucoup moins. Donc, en fait, c'est beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui, je pense. Et du coup, il s'installe à un endroit pendant 1 ou 2 mois, il fait des petites arnaques, puis il bouge de quelques kilomètres, il refait les mêmes, il bouge et il refait les mêmes, il refait les mêmes. Donc, c'est principalement de la fausse monnaie. Il est fort aussi aux cartes, on le sait depuis le début, donc il doit y avoir pas mal de cartes. C'est aussi attesté qu'il y a pas mal de courses hippiques qui ne truquent pas. Lui, il se contente d'être dans le public et de faire croire aux gens qu'il a des bons tuyaux et du coup que tiens, passe-moi l'argent, je vais aller parier pour toi. Et en fait, il s'en va avant la fin de la course. C'est pas vraiment un truqueur, c'est un bonimenteur. C'est quelqu'un qui sait très très bien vous convaincre et à qui on a envie de faire confiance. Donc, c'est toujours dans la même logique. Fausse monnaie, faux conseils. Il fait ça pendant quelques années sur toute la côte est des États-Unis. Puis il va quand même finir par se faire arrêter à un moment et confondre. On va finir par retrouver sur lui la clé d'un coffre où il y a une 50 milliers de dollars en fausse monnaie dedans, donc à partir de là il est un peu cuit. Donc ça se passe en 1935, il est arrêté d'abord à New York et puis ensuite je crois sur la côte ouest, jugé, et là il est envoyé en prison à Alcatraz. Donc Alcatraz 1935, c'est pas des super conditions de détention, je pense, pour Lustich. Il est condamné à 15 ans, mais il fait pas sa peine en entier, il meurt d'une pneumonie en 1947. C'est la fin de sa carrière d'escroc et il aura fait que ça toute sa vie.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Jules, et comment connaît-on tous ces détails de l'affaire de la Tour Eiffel? Quand on sait que Poisson, dans sa honte, n'a jamais porté plainte et qu'il a soigneusement gardé le silence dessus?
C'est principalement lui qui les a dévoilés, en fait. Comme tous les escrocs de son type, comme tous les bonimenteurs, Victor Lustich est très fier de lui. C'est justement d'ailleurs là que se pose une partie du problème, c'est que la source de Victor Lustich, c'est pas mal Victor Lustich lui-même. Il a écrit son autobiographie, mais c'est probablement un tissu de mensonges. On peut pas exactement tout savoir. On est obligé de revenir aux vraies sources et de croiser avec des articles de presse et de regarder ce qui s'est dit au procès pour être sûr de ce qu'on dit. Quand on fait des recherches sur cette affaire, on trouve pas mal de versions différentes. On trouve des versions avec des dates de vente différentes, des versions qui avancent des sommes. Mais en vrai, tout ça, on le sait pas. On aimerait bien savoir combien il a vendu, mais on le sait pas. Donc, il nous manque pas mal d'infos et il y en a pas mal qu'on a, mais dont il faut se méfier parce que c'est lui qui les a écrites et on connaît que personnage.
La Tour Eiffel, à la ferraille, en pièces détachées. Non mais Victor Lustich, tout de même. Merci à Jules Grandin, chef du service infographie des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité et toutes les séries d'été, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.